en séance. Une retransmission proposée par Canal Academy.
Monsieur le Président, Monsieur le Perpétuel, mes chers confrères, mes chers collègues, mesdames, messieurs, il doit être entendu tout d'abord que je vais traiter aujourd'hui cette question dans le contexte général de cette année, telle que notre Président l'a organisée. Donc je me plie à une certaine discipline intellectuelle et j'essaie de me concentrer sur le thème de l'année. On pourrait dire bien d'autres choses, vous me pardonnerez, bien entendu, de devoir laisser de côté certains aspects, mais qui n'entrent pas vraiment dans notre cadre. Lorsque François Guizot nous a fondé, ou plutôt refondé en 1832, il a repris le nom que portait la classe des sciences morales et politiques qui avait existé au sein de l'Institut de France depuis sa création en 1795. Classe des sciences morales et politiques qui avait été supprimée, comme vous le savez, par Bonaparte en 1803. Il s'agissait pour les contemporains de réunir dans cette classe, plus tard dans cette académie, toutes les sciences qu'on appelait à l'époque non physiques, dans un projet qui pouvait varier dans le détail, mais qui était à leurs yeux, je dirais de 1795 finalement à Guizot, tout à fait cohérent et qui trouvait sa place dans l'ensemble des académies. Il s'agissait en effet d'organiser un parlement des sciences de l'homme et de la société. Étant entendu, tout ça sont des citations, guillemets, mais étant entendu que les sciences de l'homme et de la société ne répondaient pas au même esprit que la notion de sciences humaines et sociales qui s'est imposée dans le système universitaire français au XXe siècle. Il s'agissait plutôt, dans cette période de bouleversement révolutionnaire, de remettre en phase l'évolution des institutions politiques avec celle de la science et des différentes facultés humaines. Le projet était donc tout autant politique que scientifique. L'œuvre d'historien de Guizot, comme par exemple son histoire de la civilisation européenne, illustre sa méthode et sa vision. L'approche est à la fois historique, politique, morale, au sens de la philosophie morale. L'objectif n'est pas seulement d'analyser le monde, il n'est pas non plus à l'inverse de lui imposer un bouleversement, il est d'accompagner en la facilitant par une réflexion organisée la transformation que connaît l'Europe, pas seulement la France, depuis la fin de l'Ancien Régime. Le projet est celui d'une construction politico-scientifique rationnelle. Et cette réflexion rationnelle repose sur la collaboration et même l'interpénétration des différentes disciplines qui sont représentées parmi nous. Il n'est pas question de les opposer les unes aux autres, il faut au contraire en permanence les réunir dans une réflexion commune. Ça va en fait bien plus loin, ce n'est même pas de la multidisciplinarité telle qu'on la conçoit aujourd'hui, c'est une coopération organique permanente, une quasi-fusion. Quelques remarques préliminaires. Tout d'abord, pour les contemporains de Guizot, il n'y a pas d'opposition entre ce que nous appelons tristement les sciences dures et les autres, qu'on qualifiera peut-être de sciences molles, n'est-ce pas? Et si on prend le dictionnaire national de Becherel, paru en 1865, à l'article « Science », on lit « Toute branche du savoir, des connaissances humaines, susceptible d'une démonstration rigoureuse. Sciences naturelles, sciences physiques, sciences médicales, sciences exactes, sciences morales et politiques. » Il n'y a donc nul ostracisme, même, je dirais, aucune dialectique entre les différentes sciences que nous qualifions aujourd'hui d'exactes ou pas. Les sciences exactes manifestent aujourd'hui un esprit plus indépendant, pour ne pas dire plus impérialiste, même si, comme le reconnaissent parfois certains scientifiques, elles fonctionnent elles aussi souvent à partir d'hypothèses fausses que l'on corrige ensuite tant bien que mal. Je pourrais vous amuser, mais enfin, c'est pas le jour. Bon. Et d'autre part, on ne constate à l'époque nulle tendance non plus à considérer l'histoire comme moins scientifique, je dirais-je, que les autres sciences humaines. Ce qui est pourtant l'une des grandes tendances actuelles, j'y reviendrai. Que l'on relise Guizot ou Michelet, son esprit différent, on constate chez eux un va-et-vient constant entre l'histoire et la réflexion philosophique ou politique. Leur méthode répond bien aux catégories d'analyse définies dès Aristote et reprises par Descartes, induction à partir des faits particuliers que l'historien observe, pour échafauder des théories générales, ou du moins parvenir à des conclusions de portée philosophique et politique, vérification ensuite de ces théories et de ces conclusions en les confrontant aux faits par un processus de déduction, de dialogue et d'aller-retour permanent entre l'histoire et les autres disciplines. D'autre part, il s'agit d'un programme non seulement scientifique, mais aussi institutionnel, afin d'organiser justement ce dialogue organique permanent entre les différentes disciplines. Et c'est un mouvement européen, pas seulement français, comme le montre la création d'institutions analogues à la même époque, en Belgique, en Italie, en Espagne, au Royaume-Uni, je pourrais citer encore d'autres cas, mais je prends les plus connus, qui toutes évoquent dans leur intitulé les sciences morales et politiques, ou les sciences morales, ou les sciences sociales. Mais enfin, l'esprit est le même partout. Notre académie est un parfait exemple de ce que j'essaie de vous décrire. Il suffit de lire, quand ils ont été notés, le compte-rendu des débats hebdomadaires. La science consacrée au projet d'impôt sur le revenu au printemps 1914, il a été voté très vite au Parlement, pour prendre un exemple qui a d'ailleurs beaucoup stimulé la réflexion de nos prédécesseurs, est un parfait exemple de cette approche multiple, unissant réflexion théorique, historique et politique. Politique, bien sûr, au sens aristotélicien du terme, pas au sens politicien. Ce n'est qu'à la fin du XIXe siècle que les différentes disciplines, dans une réforme universitaire largement inspirée par le modèle allemand, prendront vraiment leur autonomie, voire leur indépendance. L'histoire en particulier connaîtra un grand développement, certes parfois impérialiste, je dirais, il faut savoir faire sa repentance, mais qui s'accompagnera trop souvent d'une réduction progressive de son interaction avec les autres disciplines, et même, c'est encore plus grave, lui fera perdre finalement sa pertinence, trop souvent du moins, du point de vue des autres disciplines. C'est là l'explication du titre que j'ai voulu donner à cette communication. Or, c'est le projet même de notre académie, je dirais sa feuille de route, qui sont ainsi mises à mal. Et c'est la place de l'histoire au sein des sciences humaines et la nature même de la discipline historique qui va évoluer considérablement. Certes, l'histoire est explorée depuis les années 1920, nombre de pistes nouvelles, souvent avec beaucoup de succès, mais elle a peut-être trop souvent perdu sa capacité de dialogue et d'influence réciproque avec les autres disciplines. Alors qu'au contraire, c'est un peu la ruse de l'histoire, les historiens de l'époque pensaient renforcer cette capacité de contact avec les autres disciplines. L'histoire s'est, à mon avis, progressivement marginalisée, toujours dans le sens que nous disons aujourd'hui, les sciences morales et politiques. Alors que les Lucien Febvre, les Fernand Braudel pensaient au contraire la porter au pinacle et en faire la discipline reine. Et alors qu'ils pensaient lui annexer les autres sciences sociales, c'est largement le contraire qui s'est produit à mon avis. Mentionnons d'abord la tentation des sciences exactes de reléguer l'histoire dans l'anecdotique. La scientificité de l'histoire en tant que discipline est radicalement contestée de nos jours par les sciences exactes. Ce n'est pas sans conséquences multiples, y compris pour l'organisation de l'enseignement supérieur, de la recherche, des laboratoires au sens du CNRS, des études doctorales, etc. On tend en effet à imposer aux historiens des normes qui ne correspondent pas toujours à leurs conditions réelles de réflexion, de travail, comme la durée maximale de préparation d'une thèse en 3 ans, ce qui est parfaitement compréhensible quand il s'agit d'étudier une constante dans un laboratoire, dans un groupe de travail de 50 ou 100 personnes, qui est moins compréhensible quand il s'agit d'un travail de thèse d'histoire un peu sérieux, où il faut 5 ans au minimum en moyenne. On nous reproche en effet, du côté des sciences exactes, de ne pas pouvoir, évidemment, procéder à des expériences permettant de valider ou d'affirmer telle ou telle théorie. Certes, on reconnaît que les historiens de l'économie, de la société, les démographes, etc., établissent et utilisent des séries chiffrées, mais nous dit-on, ils ne peuvent en tirer des lois ou même des théories générales validées ensuite par l'expérience. Les historiens, de ce côté-là, pense-t-on, pratiqueraient tout au plus l'arithmétique, mais n'accéderaient pas à l'algèbre. À quoi on peut répondre que les historiens peuvent très bien déceler des corrélations sur le temps long. En effet, nous avons, nous aussi, nos variables. Je fais allusion là à l'exposé tout à fait passionnant de notre collègue Philippe Mongin dans cette même enceinte plus tôt dans l'année. Pour les historiens, les variables, ce sont des séries de données différentes par leur origine et qui permettent de déterminer les facteurs les plus importants dans une évolution historique donnée, en recherchant les corrélations les plus fortes entre les causes possibles d'un phénomène et les développements observés. C'est, pour les historiens, l'équivalent de l'expérimentation. On ne va pas refaire la guerre de 14, évidemment, mais on peut néanmoins étudier ceux des facteurs qui, pour tel ou tel domaine de la guerre, ont été, au fond, les plus significatifs. Prenons un exemple. Ce sont des études de ce genre qui ont permis de montrer que le plus grand facteur d'accélération de la révolution industrielle en Grande-Bretagne a été la transformation radicale préalable de l'agriculture, avec une augmentation massive de sa productivité, ce qui lui a permis de dégager des capitaux et une main-d'œuvre disponible. C'est là que résidait le taux de corrélation statistique le plus élevé, contrairement d'ailleurs à ce qu'on pensait, plus que du côté de l'innovation technologique, du commerce, etc. Ces découvertes, un peu surprenantes au premier abord, n'ont pas été sans conséquence pour la réflexion sur le phénomène du sous-développement. On a compris, par exemple, que le modèle soviétique de développement par la priorité accordée à l'industrie lourde, que je qualifie de soviétique, mais enfin qui était répandu très largement dans tout l'Occident dans les années encore 60, n'était peut-être pas le plus efficace pour le développement des pays qu'on appelle aujourd'hui émergents. D'autre part, cette analyse des corrélations entre phénomènes, parfaitement conforme à la méthode historique, car elle ne remet pas en cause la spécificité des diverses situations, et qui même a ouvert des voies historiographiques tout à fait nouvelles, comme l'a fait par exemple notre confrère Emmanuel Leroy Ladurie, ou l'historien de l'économie François Crouzet, mais je pourrais citer d'autres noms, ces nouvelles méthodes permettent de renouer avec des disciplines quantifiables, comme l'économie ou la sociologie. On peut donc conclure que la tendance de certains à écarter l'histoire du champ des sciences constituées, même si elle est toujours présente, cette tendance n'est pas justifiée et n'empêche pas en fait notre discipline de dialoguer, de collaborer avec les autres sciences politiques et morales. Le problème, puisque j'ai parlé de problème, n'est pas là ou n'est plus là ou ne devrait pas ou ne se situe pas là. Le problème, finalement, c'est l'évolution même des sciences historiques qui les éloigne du modèle de Guizot. En effet, qu'il s'agisse de l'histoire démographique, sociale, économique, on ne peut pas la produire sans un minimum de modélisation mathématique. Et c'est une démarche parfaitement légitime qui s'est développée depuis les années 1920, dont les résultats sont utiles aux autres disciplines. Les sciences politiques ou économiques, par exemple, se nourrissent aussi des résultats de ces études historiques. Sans cette spécialisation et cette systématisation, qui sont essentielles pour l'évolution moderne des sciences morales et politiques, l'histoire resterait, pour reprendre la fameuse formule que Jomini utilisait pour qualifier la guerre, un drame terrible et passionné. Un simple récit, donc, et non pas un objet et un lieu de réflexion. Le problème est que les défricheurs de ces nouvelles spécialités de l'histoire ont souvent eu tendance à réduire les historiens plus traditionnels ou qualifiés par eux de tels à l'anecdotique, expression très méprisante qui vise justement à disqualifier les autres. Seulement, ils perdent par là souvent de vue que ce qu'ils appellent anecdote est en fait l'expression de la différence, de la particularité. Or, c'est la fonction même de l'histoire dans les sciences sociales. Alors que les autres recherchent les conclusions universelles, ou du moins généralisables, le domaine de l'histoire est le particulier. Non pas tant la chronologie, d'ailleurs, que la différence, je me permets d'insister sur ce point, différence entre les individus, les sociétés, les peuples, les civilisations, les périodes. Et c'est cette dialectique entre le particulier et l'universel qui est à la base même de notre programme de sciences morales et politiques, tel du moins je le conçois. Et là, l'histoire n'est pas certainement la seule en cause, mais elle joue dans cette confrontation permanente un rôle essentiel. Bien entendu, il n'est pas du tout dans mon esprit, pas le moins du monde, pas question de brider la recherche, les recherches de mes collègues historiens. Mais je suis amené à constater que l'historiographie s'est souvent engagée depuis les années 20 sur des voies qui rendent plus difficile sa coopération avec les autres sciences humaines. Première étape a été constituée par l'école des annales et la nouvelle histoire, même si ce n'est pas ce qu'elle avait en tête au départ. problème, en effet, est apparu à partir des années 20 avec l'école des Annales, plus tard, dans les années 70, qu'on a appelé la nouvelle histoire. Celle-ci trouve ses racines dans l'inquiétude éprouvée par les historiens des années 20, qui constataient une sclérose de l'histoire universitaire, d'ailleurs bien réelle, qui avait été pourtant la science reine au XIXe siècle, et qui constataient son éviction comme discipline universitaire principale à la Sorbonne, à partir de Durkheim et de la sociologie universitaire. La solution, pour cette génération des années 20, fut de faire de l'histoire une science quantitative. Il rejoignait par là le scientisme fondamental de l'époque afin d'essayer de reconquérir le rang perdu. Et pour cela, ils voulurent passer de l'histoire érudite traditionnelle à une science sociale. C'est à partir de là que l'on considère l'histoire comme une science sociale. Ce qui n'est pas la même chose qu'une science morale et politique, j'ai déjà dit, c'est évident. Mais cette véritable révolution comportait un danger de dérive. L'histoire doit rester un récit et ne pas s'abstraire de la chronologie. Il ne faut pas étudier une période, mais un problème, disait Lucien Febvre. Et certes, cette formule est profonde, je suis d'ailleurs d'accord, et on peut en tirer beaucoup. Mais le danger, c'est l'excès, comme souvent. Le danger, c'est de tomber dans ce que Max Weber qualifiait de pestilence méthodologique. On ne recherche plus rien, on ne trouve plus rien, surtout, on discute indéfiniment de la méthode. Avec aussi le risque, parfois, d'une dérive dogmatique. On peut critiquer également l'approche épistémologique essentielle de la nouvelle histoire. L'opposition entre le temps long, d'une part, celui des grands mouvements démographiques, économiques, sociaux, se développant sur des dizaines d'années, voire des siècles, seul significatif, penserait-on, seul digne d'attention, et de l'autre côté, le temps court, autrement dit l'événementiel, ce n'est pas un compliment pour cette école historique, l'histoire politique, pire encore, l'histoire bataille, ou comme on dit maintenant, n'est-ce pas par dérision, l'anecdote. Cela conduit tout droit à un déterminisme profondément anti-historique. Rappelons ce que proclamait Jean-Baptiste Durosel, l'histoire est totalement faite d'événements. Raymond Aron, de façon peut-être plus nuancée, dans ce débat était du même côté que Durosel. Contre le déterminisme de l'histoire structuraliste, il rappelait qu'il s'agit pour l'historien d'étudier des ensembles singuliers uniques et qu'il est vain d'établir une opposition radicale entre structure et événements. Certes, comment ne pas reconnaître les apports des annales et de la nouvelle histoire pour l'histoire de l'économie, de la démographie, pour l'histoire sociale, pour celle des mentalités. En même temps, on doit constater des manques systématiques, des rejets voulus. L'histoire politique et institutionnelle, l'histoire des relations internationales, l'histoire militaire, la biographie, qui est au contraire la grande force de l'historiographie anglo-saxonne. Cette histoire des masses, marquée par l'économisme et la disqualification du politique, ainsi que du qualitatif au profit du quantitatif, correspondait évidemment à une incontestable influence marxiste diffuse dans l'université française de l'époque. Il y a eu une première réaction. Certes, le prestige des annales et de la nouvelle histoire et leur magistère ne sont plus maintenant ce qu'ils ont été à une certaine époque. L'histoire politique a été réhabilitée, relancée et constitue même aujourd'hui l'un des secteurs les plus dynamiques de l'historiographie, en particulier en France. De mon point de vue, membre de jury de thèse ou de responsable de programme, j'en suis tout à fait convaincu. On n'oubliera pas l'importance de la double réaction, multiple réaction en fait à partir des années 80, à la fois contre le marxisme et contre les tendances structuralistes de l'école des annales. Je citerai un livre qui a fait date, un recueil qui a fait date, pour une histoire politique, sous la direction de René Raymond, en 1988. Également, dans le même esprit, pour une histoire culturelle, sous la direction de Jean-Pierre Rioux, Jean-François Sirinelli, en 1997. Cela vaut aussi pour l'histoire des relations internationales. Pour l'histoire des relations internationales, le choix du titre commençant par « pour » n'est pas dû au hasard, vous l'avez bien compris. Plus récemment, sous la direction de Robert Franck, plus récemment, en 2012. On pourrait en dire autant de l'histoire religieuse, devenue une discipline essentielle. Je me tourne vers notre confrère Philippe Levillain. Je ne lui conseillerais pas un pour l'histoire religieuse, mais enfin, il voit ce que je veux dire, même si ça sent le fagot. Bon. Cependant, on se trouve, malgré cette réaction vigoureuse, devant une tendance générale encore plus récente. Ce que j'appellerais une historiographie postmoderne. Et il me semble que l'on a franchi une nouvelle étape qui rend encore plus difficile la coopération avec les autres sciences morales et politiques que du temps des annales, pour dire les choses rapidement. Voyons les tendances actuelles. Une grande partie de l'historiographie paraît suivre le mouvement général de la culture contemporaine et des médias vers ce que l'on pourrait appeler une approche postmoderne ou « New Age », comme diraient les Américains. Siégeant dans de nombreux jurys, commissions spécialisées, participant de nombreux colloques en France mais aussi à l'étranger, en particulier en Allemagne, pas seulement, je suis très frappé par la transformation profonde des thèmes traités, des zones de recherche qu'on nous propose pour des postes, pour être candidat à un poste, pour demander une bourse, etc. On n'étudie pas tant l'histoire que sa représentation et sa mémoire. On n'expliquera pas un phénomène historique, on décrira comment il a été perçu à l'époque et quelle mémoire en a été conservée. Comment la Grande Guerre a éclaté? Comment a-t-elle été menée? Pourquoi? Quelles ont été les conséquences? Tout cela intéresse aujourd'hui moins que la perception de cette Grande Guerre par les contemporains et son écho aujourd'hui. D'autre part, les questions posées sont celles qui sont à la mode de nos jours. Le racisme, l'exclusion, le genre, j'y reviendrai, les reproductions sociales dans le sens de Bourdieu, la culture dans l'acception actuelle du terme, les déviances de toute nature, etc., le tout dans le contexte de la mondialisation. C'est tout un univers mental qui s'est constitué depuis les années 70, qui est encore différent de celui des annales, et qui est celui d'une grande partie des nouvelles générations. Une fois de plus, je ne le remets pas en cause en tant que tel, mais il nous pose à nous ici un problème, c'est ce que je veux dire. En outre, on constate une déstructuration des disciplines. C'est peut-être encore plus grave, finalement. Sous le prétexte d'explorer les interfaces disciplinaires, les zones qui se situent à l'intersection de différentes disciplines, ce qui est en soi tout à fait valable et souhaitable, je dis tout de suite, mais qui est très difficile, on se permet parfois des approximations arbitraires. Un historien étudiera, par exemple, le problème des asiles d'aliénés ou la peur des pandémies comme des questions vues du point de vue de l'exclusion sociale, qui est tout à fait légitime, mais en prétendant parler aussi en fonction d'un point de vue médical ou psychiatrique ou psychanalytique, point de vue qui sont quand même très spécialisés et restent étrangers aux profanes. Et le danger, c'est évidemment le bavardage mal informé. Certes, certaines de ces recherches sont en elles-mêmes intéressantes, mais ce n'est pas la question ici, je répète. Elles ont beaucoup de mal à entrer en coopération avec les autres sciences morales et politiques, pour les raisons diverses que nous allons détailler ensuite, mais pour deux raisons générales fondamentales que j'annonce tout de suite. L'absence d'archives bien nettes, de documentation bien identifiée pour la plupart de ces sujets, font que l'essentiel repose sur le choix des exemples utilisés par l'historien pour illustrer sa thèse. Or, ce choix, en l'absence de sources clairement identifiées, est forcément subjectif, voire arbitraire. C'est l'objection que nous sommes amenés de plus en plus souvent à faire aux projets de recherche qui nous sont soumis. Deuxième raison, corollaire de la précédente, une fois qu'une hypothèse a été injectée au point de départ de ce genre de recherche, il est bien rare qu'elle ne se retrouve pas intacte à la sortie, car à un certain niveau d'abstraction, il devient fort difficile de conclure qu'une hypothèse n'est pas valable. Ça, c'est le grand danger de l'autoconfirmation des hypothèses que nous voyons en ce moment. En ajoutant à ça la mode venue des États-Unis pour les jeunes chercheurs, tendant, pour des raisons de carrière, je dirais aussi, parce que c'est un peu la mode, à chercher à se profiler, à s'opposer systématiquement à ce qui a été dit avant. Il faut se profiler, comme on dit, n'est-ce pas, en Amérique ou en Allemagne. Donc l'originalité à tout prix. Bien entendu, il existe toujours d'autres courants historiographiques qui prolongent des méthodes plus classiques en les enrichissant progressivement avec des approches et des questions nouvelles. L'histoire politique, l'histoire économique, l'histoire des relations internationales, je l'ai déjà dit, continue et évolue. Mais on constate néanmoins une certaine désaffection. Par exemple, pour l'histoire économique, qui est l'une des grandes victimes, en France en particulier, des développements actuels. Et surtout, les revues, les éditeurs, les comités de sélection pour les postes universitaires, les organisateurs de colloques, bref, ce qu'on appelle les donneurs d'ordre, ont tendance de plus en plus à donner la préférence aux nouvelles tendances. On fera carrière plus facilement si on s'intéresse au genre que si on étudie un sujet plus classique. Les collègues ici universitaires, historiens comprendront ce que je veux dire. Voyons maintenant justement quelques thèmes à la mode. Certains ont leur valeur, je n'ai pas du tout dit qu'ils sont sans valeur, mais ils posent des problèmes, pour notre point de vue. Histoire mondiale, ou Global History, c'est un thème très porteur qui a envahi les universités américaines et qui monte en puissance chez nous. Il comporte aux États-Unis, en particulier, des enjeux politiques et sociaux. Black Egypt, l'idée que la civilisation égyptienne était en fait issue d'Afrique noire. Bon, c'est pour des raisons évidentes, n'est-ce pas ? Également le paradigme white, male and dead, blanc, mâle évidemment et mort, qui remet tout simplement en cause et disqualifie tout le canon occidental classique. Attention, je distingue le projet d'une histoire mondiale, qui est à mon avis sans issue, c'est pas possible, d'un autre problème qui lui est tout à fait intéressant et légitime, l'histoire de la mondialisation. C'est tout à fait différent. Dans le domaine de l'histoire en particulier, on constate actuellement la montée en puissance de la global history, pas seulement en France, peut-être même plus rapidement ailleurs que chez nous, avec des conséquences qui commencent à se manifester très clairement pour la recherche et l'enseignement. Alors, il y a certainement dans certains domaines des sujets tout à fait intéressants à traiter d'un point de vue global, mais justement, de quoi s'agit-il ? Global History, quand on regarde les manuels qu'on trouve dans les universités américaines, les colloques, les livres, les revues, on voit des articles sur l'histoire du climat. Ah, effectivement, c'est mondial. L'histoire des migrations, ça aussi c'est mondial. Tout au plus peut-être de l'économie. Mais le reste est largement oublié ou relativisé, car l'histoire de l'humanité n'est justement pas mondiale. Ce sera peut-être un jour une réalité mondiale, mais pour le moment ce n'est pas le cas du point de vue historique. Cela limite sérieusement l'utilité de la global history de notre point de vue, même s'il faut s'en occuper, suivre les développements, et même s'il est très à la mode. Autre tendance, peut-être plus importante dans l'actualité française quotidienne, ce qu'on appelle l'histoire vue d'en bas. L'histoire des petites gens, ou encore ce que les Italiens appellent la microstoria. Passons sur l'évident préjugé démocratique et anti-élitiste, certaines de ces recherches d'histoire vues d'en bas sont novatrices et utiles. Par exemple, l'étude de la vie locale quotidienne concrète des Français au début de la Grande Guerre. Je pense à l'exposition « Tous en guerre » des Archives nationales, vous avez peut-être vu, ou au colloque « La Savoie en guerre » à Chambéry fin septembre, très bon colloque, ou à notre exposition ici sur l'hôpital auxiliaire d'Aunetière pendant la guerre de 14. S'est occupée Madame Gagnard, je reçois là. Bon. Tout ça a permis de découvrir beaucoup de choses. Et de mon point de vue d'historien d'en haut, si vous me permettez, on apprend ainsi que les administrations, les hôpitaux, la Croix-Rouge, les armées, les grandes sociétés ferroviaires ou industrielles avaient très soigneusement préparé la mobilisation depuis longtemps. On apprend également, grâce à toute une série de petits faits locaux mais très concrets, que l'état-major a pris des mesures préparatoires de mobilisation sans en référer au gouvernement, j'insiste là-dessus, au moins une bonne semaine avant que Paris n'ordonne la mobilisation. Ce qui ne pouvait pas échapper aux Allemands et qui donc, dans les conditions d'organisation des systèmes militaires à l'époque, ne pouvait qu'aggraver la crise. L'histoire d'en bas, pour ça que je la rejette pas du tout, hein. L'histoire d'en bas nous conduit à la conclusion que la société française était en fait plus militarisée que la société allemande de l'époque. Ce qui n'est pas une conclusion sans intérêt qui peut vous surprendre, mais que je pourrais défendre. Ceci dit, l'exagération de cette méthode peut conduire à des impasses ou à des non-sens. On le voit dans le flot des commémorations du centenaire de la Première Guerre mondiale. Quoi de plus démodé, paraît-il, que l'histoire politico-stratégique classique, celle des campagnes militaires, des plans d'opération, des buts de guerre des belligérants, des négociations, des traités de paix. Alors que ne compte plus, pour beaucoup de nos contemporains, que les perceptions et la mémoire des simples combattants, une fois de plus l'histoire vue là de la tranchée, n'est-ce pas, y compris les peurs, la misère, l'inconfort quotidien des soldats. Seulement, ce sont les dirigeants qui ont pris les grandes décisions, de l'entrée en guerre au traité de paix, à travers les différentes phases du conflit. C'est l'histoire vue d'en haut, si on veut parler ainsi, qui a façonné l'avenir de la France et de l'Europe pour la suite, avec des répercussions jusqu'à nos jours, des Balkans à l'Ukraine et au Moyen-Orient. C'est l'histoire vue d'en haut qui a conduit à la Seconde Guerre mondiale et aux différents totalitarismes du XXe siècle, largement issus de la Grande Guerre et des traités de paix. Il faut donc s'en occuper. Et contrairement à ce que l'on croit, pour cette histoire vue d'en haut, il y a encore énormément de choses à faire. Beaucoup de questions qui n'ont pas été abordées. D'autre part, comment expliquer, si on s'en tient à la vision actuelle de l'histoire vue d'en bas, un peu misérabiliste, comment expliquer que les combattants aient tenu, comme on disait ? Et si les élections de mai 1914 avaient porté à la Chambre une majorité fort pacifique, sinon même pacifiste, qui croyait au progrès, à un monde où l'humanité dépasserait les conflits armés, comme mode de règlement des différends, les élections du 16 novembre 1919 ont produit avec 433 députés contre 180, une majorité de droite bleu horizon, avec une forte proportion d'anciens combattants, et qui étaient bien décidés à faire respecter rigoureusement les traités de paix. On ne peut pas dire que les dirigeants du temps de guerre, en particulier le président de la République, Raymond Poincaré, fort énergique, et Georges Clemenceau, président du Conseil à partir de novembre 1917, qui mit un terme brutal aux tractations secrètes avec l'adversaire, ait été désavoué par les électeurs de novembre 1919. Donc la France d'en bas, quand elle a pu s'exprimer dans ses comices, ne s'est pas désolidarisée de la France d'en haut, malgré cette guerre épouvantable. On peut en tirer beaucoup de réflexions, je ne prétends pas trancher ici, mais je souligne le fait. Autre nouveau domaine, les représentations, les émotions, la mémoire. Là aussi, il y a des choses utiles à côté de l'évolution historique que l'on essaie de reconstituer, d'expliquer. Il y a eu les représentations que s'en sont fait les contemporains, les émotions qu'elles ont suscitées, la mémoire qu'elles ont engendrée. Et à leur tour, représentation, émotion, mémoire deviennent des réalités psychologiques, politiques, sociales, culturelles et contribuent à la formation de la suite de l'histoire. Mais ce sont des réalités au second degré, complexes et difficiles à interpréter. Il existe toujours une pluralité de représentations et de mémoires. Ce sont les origines familiales, régionales, sociales, ce sont les préférences et les engagements politiques ou culturels ou religieux. Donc le sujet est très complexe et, disons-le, largement subjectif. Prenons un exemple actuel. Pardonnez-moi, nous passons notre temps à célébrer 14-18, je circule pas mal à ce sujet. Les mémoires de 1914-1918 restent largement nationales. Il suffit de se rendre en ce moment à Budapest, à Belgrade, à Berlin, participer, comme je l'ai fait, à des commémorations britanniques dans les cimetières du nord de la France, pour se rendre compte que la mémoire de la guerre reste fort différente d'un pays à l'autre. D'autre part, l'histoire mémorielle, celle des manifestations de mémoire, des anniversaires, etc., dérive parfois, souvent, vers une forme de catharsis collective, quelque peu voyeuriste. Je pense ici en particulier à la Deuxième Guerre mondiale ou à la colonisation. L'émotion se substitue à la réflexion. Et comment peut-on décrire de façon un tant soit peu rigoureuse les émotions, même si on admet la notion d'émotion collective, que pour ma part je conteste. Tout cela est tout à fait légitime en soi, une fois de plus, bon. Mais cela ne peut être que faiblement utile à notre programme. Et alors, peut-être encore plus fort, un spectre entre l'Occident et le genre. L'histoire n'a pas échappé à la dictature du genre. Les gender studies, après avoir emporté le monde anglo-saxon et l'Allemagne, ont débarqué partout, y compris chez nous. Même la Sorbonne a maintenant un module d'initiation au genre transdisciplinaire, placé en début de cursus et, je dirais, quasiment obligatoire, à mon avis. Et je vous recommande le programme de recherche « Love, Sex, War » en anglais, s'il vous plaît, du Centre d'Histoire de Sciences Po. Vous pouvez voir facilement sur le site de cette honorable maison. Je ne vous détaille pas davantage, je ne veux pas heurter les jeunes sensibilités présentes. Bon. Et en vous rendant sur les sites, vous comprendrez pourquoi je ne pense pas que cette voie de recherche, pourtant passe de devenir dominante, puisse nous mener très loin. Autre exemple de nouveauté, l'histoire culturelle. Elle apporte beaucoup en permettant de réunir de façon dynamique histoire, sociologie, art culturel, représentation, littérature, etc. Tout ça est important, y compris dans notre domaine. Les facteurs, et j'en suis même des relations internationales, les facteurs historiques de nature culturelle interviennent aussi, on le comprend maintenant, dans la politique, y compris la politique internationale et même la stratégie. Nous développons des études dans ce sens. En même temps, on constate des dérapages. Je prends un exemple. Jean-François Sirinelli et moi-même avions organisé, en 2008, un colloque culture et guerre froide, ma foi, très réussi, je le dis en toute modestie. Il s'agissait des oppositions et des échanges officiels et des transferts et influences culturelles réciproques hors des filières officielles ou dans le cadre des échanges officiels, on étudiait tout, entre les deux blocs, les deux camps. Mais en général, quand on s'exprime aujourd'hui, même dans le milieu universitaire, le sujet est compris non pas comme culture et guerre froide, mais comme la culture de guerre froide, ce qui est tout à fait différent, qui est, à mon avis, vague et finalement très largement arbitraire. Alors, en quoi tout ça nous pose-t-il des problèmes ? Il n'est pas question de brider ces voies de recherche, n'est-ce pas ? Et certaines, je répète, déboucheront sans doute sur des résultats intéressants. Mais en passant de l'histoire triomphante, pour ne pas dire impérialiste des annales, à la perte d'identité dans le conglomérat des sciences sociales, ou encore en délaissant l'analyse précise des faits et des causes pour la mémoire, les perceptions et l'émotion subjective, notre utilité aux yeux des autres disciplines me paraît avoir diminué. D'autre part, notre insistance sur la différence des temps et des situations, sur la viscosité de l'histoire humaine, n'est plus comprise. Et du coup, nous ne pouvons plus vraiment dialoguer avec les autres disciplines qui trop souvent se passent de nous. Le danger qui nous guette, nous autres historiens, c'est l'insignifiance par rapport aux autres disciplines représentées ici. Or, pourtant, la réunification allemande, le retour de la Russie après la fin de l'Union soviétique, mais aussi la rémanence des structures mentales soviétiques, les déboires du printemps arabe, les à-coups de la construction européenne, la crise économique actuelle, pour prendre quelques exemples, qui entre nous n'avait guère été prévu par le consensus savant, hein, si on fait un peu d'autocritique, tout ça montre que l'histoire est au fond aussi le récit de la friction, au sens de Clausewitz, qui freine ou complique l'évolution des hommes et des sociétés. Nous n'en sommes pas à la fin de l'histoire. Le monde ne s'est pas achevé avec la victoire de la démocratie libérale sur le communisme. Notre rôle est de le rappeler, de souligner la ténacité des faits, leur singularité, leur chaîne de causalité complexe. Si vous voyez le désarroi qui marque le visage des eurocrates quand je leur dis que la monarchie française mettait 3 siècles, on peut le mesurer, il n'y a pas de règle écrite, mais il y a certainement une coutume, 3 siècles pour pleinement associer une nouvelle province au reste du royaume. Pendant 3 siècles, il y a des stades successifs, on met 3 siècles. Je ne vous détaille pas l'évolution. Qu'est-ce qui arrive en dernier? Vous l'avez déjà deviné, c'est le fisc royal, bien entendu. Enfin, quand tout le monde est bien vissé. Bon. 3 siècles. Alors là, c'est le désespoir, n'est-ce pas? Bon. Pour l'étude de la mondialisation de ses conséquences, une histoire globale réduite, comme y est contrainte la global history, à une histoire de la nature ou à un relativisme historico-culturel politiquement correct, ne nous sert pas à grand-chose. Pour la compréhension de l'évolution de nos sociétés, la mémoire ou le genre ne suffisent pas. Il faut une bonne histoire politique, solide histoire sociale, appuyée sur des faits mis en perspective et expliqués. Je prends un exemple très actuel. Si on étudie l'histoire de la protection sociale en France au XIXe siècle et jusqu'en 1945, bien on découvre qu'il y a une protection sociale, avant même la sécurité sociale. Elle a ses limites, elle est ce qu'elle est, mais elle existe. Et on découvre également, ce qui est encore plus intéressant, que son modèle n'est pas très différent du modèle américain actuel. Donc la situation actuelle des États-Unis dans ce domaine, qui est fort discutée, comme vous le savez, n'est pas une monstruosité. C'est l'une des tendances des sociétés occidentales dans le domaine de la protection sociale depuis le XIXe siècle. Alors, le reste est ouvert au débat, mais enfin, c'est une remise en perspective qui, je pense, n'est pas inutile. De même, pour l'étude de la crise économique actuelle, nous avons besoin d'une histoire économique et politique précise. Or, l'histoire économique est malheureusement, sur le plan universitaire, l'une des victimes des récents développements. On comprendra, par exemple, si on étudie bien la crise des années 30, que le keynésianisme n'a pas été la véritable solution, en tout cas pas la seule solution des années 30. D'autres facteurs sont intervenus et que donc ce n'est pas... Comment dirais-je, le moulin à prière qu'on nous présente parfois aujourd'hui. Pour la compréhension de la situation internationale actuelle, que ce soit l'Ukraine, le Moyen-Orient, l'apport des historiens est essentiel. Il n'est pas le seul, bien entendu, c'est pas la seule approche possible. Mais pour déconstruire, par exemple, la manipulation des mémoires, qui est l'une des caractéristiques de notre temps, c'est tout à fait essentiel. Nous pouvons parler ici de l'Ukraine, des Balkans, de l'Europe orientale, centrale, qui a fait l'objet très largement avec les représentants de notre académie à l'époque de 2 ans de travail au sein du comité d'études en 1917-1919, dont Madame Davion prépare la publication pour notre académie, n'est-ce pas ? C'est une lecture tout à fait passionnante et qui montre bien que la vie des géographes et historiens qui participaient à ces travaux aurait peut-être mérité d'être davantage suivie d'ailleurs par les rédacteurs des traités. Bon. Bien entendu, l'histoire a besoin des autres disciplines et il faut éviter tout triomphalisme. Raymond Aron critiquait justement cette tendance de l'histoire à prétendre tout expliquer, car elle comporte le risque permanent, je le cite à peu près, de transposer au présent les recettes du passé sans tenir compte des bouleversements intervenus. Évitons cependant l'hypercritique. L'histoire est une méthode d'analyse indispensable, un champ de matériaux, d'où l'on ne tire pas d'emblée peut-être une doctrine, dans quelque domaine des sciences morales et politiques que ce soit, mais où les autres peuvent venir librement puiser pour formuler ou étayer une théorie. L'histoire enseigne la viscosité des mentalités et des structures. Elle permet de comprendre la lenteur des changements profonds. Elle est un garde-fou contre les excès de la théorie en matière de sciences politiques, économiques, sociales ou en relations internationales, l'abstraction théorique étant une des plaies de notre discipline en ce moment. Bien entendu, je suppose ici que les historiens arriveront à sortir de leur crise méthodologique et redresseront certaines des dérives que j'ai essayé de vous expliquer. Leurs recherches se fondent évidemment sur les sources de toute nature, mais celles-ci doivent être interrogées. On ne trouve les réponses, dans le meilleur des cas, qu'aux questions qui ont été posées, n'est-ce pas ? C'est un peu comme l'humanité selon Marx. Bon. Certaines de ces questions découlent du paradigme fondamental de la science historique. Post hoc, ergo propter hoc. Donc, il faut rechercher les causes des phénomènes étudiés dans leur passé. Comme ces causes sont rarement univoques, ce n'est pas du tout simple, mais cela peut apporter des enseignements aux autres disciplines qui utilisent d'autres paradigmes. Justement, il y a d'autres méthodes, d'autres façons d'aborder le monde, et à leur tour, les différentes sciences humaines et l'autre apportent à l'historien des idées, des suggestions de recherche, des théories, des interrogations qu'il va pouvoir en quelque sorte tester et dans les limites de sa discipline, confirmer ou infirmer. Ce que l'on suggère ici, c'est un processus itératif entre l'histoire et les autres sciences sociales. Il suppose, pour être fructueux, que les historiens ne se réfugient pas dans l'insignifiant et leurs collègues des autres disciplines dans l'abstraction. Il exige une véritable coopération. Cette coopération et ce processus ne se mettent pas en place d'eux-mêmes et doivent être encouragés, organisés. C'est possible, nous le faisons déjà. Ce sont nos entretiens académiques. C'est par exemple le programme de Jean Béchler sur l'homme et la guerre. Tout à fait caractéristique de ce que j'essaie de vous montrer. C'est le programme de l'Association des internationalistes que nous avions fondé entre collègues de la discipline générale des relations internationales en 2009 pour amener à collaborer de façon intime sur le processus évoqué les différentes disciplines qui traitent des relations internationales, du droit à l'histoire en passant par la politologie, la géographie, l'économie. Dans toutes ces entreprises, chacun reste dans son domaine mais réévalue constamment ses recherches et ses conclusions en fonction des apports des autres disciplines sur des sujets précis. Les think tanks sérieux, je pense à l'IFRI, mais il y en a d'autres, moins peut-être connus, mais qui existent également, font appel régulièrement à la collaboration d'historiens, toujours dans le sens que je vous ai dit. Donc beaucoup de choses se font, même si elles ne sont peut-être pas au premier plan des médias ou de la mode. En effet, il faut travailler sur des sujets précis, je t'aimerais là-dessus. La multidisciplinarité ne marche, et toute l'histoire de notre académie en est la preuve, que si on l'applique à des domaines déterminés. Elle ne se démontre pas dans l'abstrait ou en général. Je condamne d'ailleurs par là près de 50 ans de réforme universitaire en France, mais enfin, passons. Pour conclure, notre académie peut aider les historiens à sortir de leur pestilence méthodologique. En retour, les historiens peuvent apporter, dans les travaux de notre académie, sur le monde actuel et son évolution, leur conscience des retards, des lenteurs des sociétés humaines, de leur résistance au changement, du poids du passé pour tout dire, en mettant en garde contre les rationalisations consolantes qui sont la marque de nos sociétés politiquement correctes. Par exemple, un choc culturel d'opposition frontale, ça peut arriver, c'est arrivé dans l'histoire, ça peut encore se produire, sera présenté volontiers comme un échange multiculturel. C'est pas bon. L'histoire nous rappelle d'autre part que l'on aura les conséquences, sont l'expression de Bainville. Et ma dernière phrase est dédiée à notre président. Devant le sérieux de l'histoire, les bavardages cessent et sur la terre arrosée du sang des hommes poussent les moissons de l'avenir. C'est une citation.
Je vais donner la parole à un certain nombre de nos confrères. J'invite donc, non pas au bavardage, puisque vous les avez condamnés pour finir, mais au débat. Et pour ce faire, je donne d'abord la parole à M. Thierry de Montbrial.
Merci, Monsieur le Président. Je crois que la communication de Georges Rissoutou est de celle qu'on a non seulement envie d'entendre, mais de lire, peut-être même de relire. Je voudrais, pour ce qui me concerne, me limiter à des aspects un peu épistémologiques, parce que, en fin de compte, toute cette année, nous tournons autour de la question de savoir si le terme « science » est légitime quand on parle de science morale et politique. Et en ce qui concerne la communication d'aujourd'hui, cette question s'applique donc à l'histoire. Et je voudrais faire trois remarques qui sont en réalité autant des remarques d'ailleurs que des questions qui s'adressent d'ailleurs aussi aux philosophes qui sont parmi nous. Alors, la première, c'est que la distinction entre science qu'on appelle parfois dure ou exacte, qui ne sont d'ailleurs pas forcément exactes aux sciences de la nature, disons, et les sciences qu'on appelle molles, c'est une distinction qu'on peut ramener à quelque chose d'extrêmement simple, qui est le fait que la nature est mathématique. C'est une question philosophique absolument basique, mais qu'il s'agisse de la physique, les lois de la physique, mais aussi de la chimie et maintenant aussi de la biologie. Cette question, d'ailleurs, n'était pas évidente il y a encore quelques décennies. Mais aujourd'hui, on sait que la totalité du monde de la nature s'exprime par des lois mathématiques. Et c'est un mystère extraordinaire, d'ailleurs. Il y a toute une histoire où je m'intéresse un peu à ces sujets, la philosophie des mathématiques, mais il y a un homme aussi grand, là, des géants du XXe siècle, des théoriciens physiciens les plus grands du XXe siècle, Richard Feynman, a expliqué dans un petit livre célèbre sur la nature des lois de la physique, au fond, la nature aurait pu obéir à d'autres principes que des lois mathématiques. Et il imagine Dieu jouant aux échecs et l'homme essayant de reconstituer les règles du jeu, ce qui n'est pas du tout la même chose que l'expression de loi physique. Alors, sans prolonger là-dessus, il est clair qu'il y a une distinction nette. La physique, les mathématiques par elles-mêmes, bien sûr, la physique, la chimie, la biologie, etc., sont d'un côté, et ce que nous appelons, qu'on les appelle les sciences molles en général, ce qui n'est pas très aimable d'ailleurs, les sciences humaines, sociales, etc., sont d'une nature différente. Bon. Alors, deuxième point, moi j'aime beaucoup le livre de Schumpeter, que d'ailleurs Jean-Claude Casanova a publié en français, l'histoire de la pensée, de l'analyse économique, l'histoire de l'analyse économique, et il a plusieurs pages sur cette question, qu'est-ce qu'une science donc non exacte, et il dit en gros une science non exacte se caractérise par des concepts, des méthodes qui lui sont propres. Et par exemple, typiquement, l'analyse statistique, les séries que peut analyser l'histoire quantitative, etc., tout ça, ça fait partie des méthodes pour l'économie, des maquettes mathématiques, parce qu'en économie, le problème, c'est que la mathématisation se prête bien à des expressions théoriques, mais qui ne prétendent pas collé à la réalité. C'est là la différence énorme avec les sciences physiques. Hein, j'insiste là-dessus. Tous les travaux de notre ami Jean Tirole ne prétendent pas s'appliquer directement à la réalité comme les lois de la physique s'appliquent aux lois de la réalité. Nous sommes dans un tout autre système. Ce sont donc des méthodes. Et Schumpeter dit, justement, au fond, au bout du compte, la méthode la plus importante, dit Schumpeter, c'est l'histoire économique. Très intéressant qu'il le dise, et ça c'est pour souligner aussi un des points de Georges-Henri Soutou sur le fait que l'histoire économique est probablement beaucoup trop négligée aujourd'hui dans les facultés. Mais finalement, et ceci m'amène à mon troisième et dernier point, qui est une véritable question, c'est que est-ce qu'on ne peut pas établir une hiérarchie des sciences depuis les sciences les plus dures, c'est-à-dire les mathématiques elles-mêmes, jusqu'aux sciences les plus molles, que je ne citerai pas pour ne pas me faire d'ennemis supplémentaires, à partir de la philosophie du langage. Parce que la philosophie du langage, si je ne me trompe, j'ai pas entendu, j'étais pas là pour la présentation de du philosophe que nous avons élu aujourd'hui, mais si je ne me trompe, M. Jaakko Hintikka est un grand philosophe du langage. C'est un philosophe analytique, hein, si je ne me trompe. Et au fond, c'est ça la question que je pose, parce que la philosophie contemporaine du langage, là, je marche sur des œufs, est partie de, en fait, la métamathématique, c'est-à-dire d'une réflexion extrêmement approfondie sur la notion de logique, à partir de la logique classique, aristotélicienne, etc., mais qu'on a refondée à partir des paradoxes de Russell, etc., à la charnière du XIXe et du XXe siècle. Donc, on est arrivé à la métamathématique, au théorème de Gödel et ses grandes constructions, et puis progressivement, on a étendu ces méthodes à l'analyse du langage lui-même, à partir duquel on voit qu'il y a toute une gradation où on peut aller d'un langage, au fond, extrêmement cerné, qui peut donc être qualifié de scientifique dans la mesure où la partie indécise et la partie floue est réduite, et puis on va ensuite jusqu'aux formes les plus ordinaires du langage, à la limite, qu'est-ce qui distingue un historien ou un économiste professionnel de personnes qui font du café du commerce, c'est le degré de flou qu'il y a dans la façon dont il s'exprime. D'où ma question, et c'est que, en fin de compte, est-ce que, quand on parle de sciences morales et politiques, des domaines qui sont les nôtres, est-ce qu'on ne pourrait pas essayer de mieux cerner la réponse à cette question à partir de la philosophie du langage? Et cette question s'adresse autant à notre communicant qu'aux éminents confrères philosophes qui sont dans cette salle.
Merci. Monsieur Guillaume.
Moi, j'aurais une question qui est un petit peu à la limite de ce qui a été dit. D'abord, je voudrais dire que j'étais très intéressé par cet exposé sur la crise de l'histoire, finalement. Sur la crise de l'histoire. Alors, cette crise de l'histoire, vous nous en avez très clairement montré les conséquences au niveau de l'enseignement supérieur. Vous n'avez pas abordé, c'était probablement pas le sujet d'ailleurs, ces conséquences au niveau de l'enseignement secondaire. Mais je crois là qu'il y a un problème fondamental. Il y a un problème fondamental parce que, d'une part, on y a abandonné la chronologie, l'histoire événementielle n'étant plus à la mode. Deuxièmement, on a mondialisé l'enseignement, si bien que nous avons maintenant, moi je le vois avec mes enfants et mes petits-enfants, des jeunes auxquels on enseigne les empires Songhai ou du Monomatopa, mais qui ignorent complètement qui était Louis XI ou Richelieu. Je trouve qu'il y a là quelque chose de dangereux à deux égards. D'une part, évidemment, et là je vais tenir des propos peut-être un peu réactionnaires, d'une part en ce sens que l'histoire avait été conçue, à l'époque de la vie et de la Troisième République, comme un instrument pour la construction de la France et de la République. Elle n'est plus cela, elle est plutôt un instrument de destruction, et je crois là qu'il y a quelque chose auquel les historiens devraient réfléchir très profondément. Deuxièmement, ça a pour conséquence aussi qu'il devient difficile d'utiliser l'histoire dans d'autres domaines. Je pense au droit. Quand j'ai fait mes études de droit, il y avait 2 années de droit romain. Il n'y a plus de droit romain, bien entendu, parce que d'abord, on ne connaît plus le latin et on ne connaît plus l'histoire antique. Bon, il n'y a plus de droit romain. Enfin, il y en a très peu, une petite introduction. Alors, 2 années, c'était peut-être beaucoup, je dois le reconnaître. Mais enfin, notre droit a tout de même trouvé là son origine. Il y avait un enseignement de l'histoire du droit, et quand je vois la manière dont, avec un petit enfant, ils reçoivent cet enseignement, j'aperçois qu'ils sont incapables de le recevoir parce qu'ils ne connaissent pas l'histoire elle-même. Il leur faut commencer à apprendre ce qu'ils auraient dû apprendre dans l'enseignement secondaire et qu'ils n'ont jamais appris. Donc, je crois que cette crise de l'histoire risque d'une part d'être une crise de l'enseignement lui-même et une crise de la nation en tant que telle. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Monsieur Dorcival.
Monsieur le Président, merci. Je dois dire que le hasard des choses fait bien cette poursuite des questions, parce que mon propos vient très exactement dans le prolongement de ce que vient de dire notre confrère Gilbert Guillaume. Et je me réjouis d'une certaine façon que mon confrère Georges-Henri Soutou ne soit pas appelé à répondre à chacune des questions à la suite, parce que, effectivement, je ne vais faire que compléter ou apporter un élément supplémentaire à la question de notre confrère. En effet, vous avez très bien décrit cette crise et vous avez employé, cher Georges-Henri, des mots très forts, perte d'identité, insignifiante, marginalisation de notre discipline. Et pour expliquer ce que vient de dire Gilbert Guillaume, c'est-à-dire expliquer l'état dans lequel se trouve cette discipline de l'histoire, dans l'enseignement secondaire, et pas seulement supérieur, je me demande s'il n'y a pas eu, d'une certaine façon, utilisation de cette marginalisation par les autres disciplines, à notre détriment, au détriment de cette discipline, pour la disqualifier dans l'enseignement secondaire. Et cette disqualification intervient à un moment où on n'a jamais vu autant de public demander, chercher, adhérer à soit des produits d'édition qui n'ont jamais été aussi nombreux, pardon pour le produit, à des livres édités dans le domaine de l'histoire, à des associations de recherche historique, à venir à des colloques parlant d'histoire, c'est-à-dire que le mouvement de l'opinion est exactement au contraire de ce qui se produit dans cette marginalisation. Mouvement qui nécessairement traduit évidemment un manque. Merci beaucoup.
Merci. Madame Delmas Marty.
Merci, Monsieur le Président, et merci à notre confrère pour cet exposé qui soulève un très grand nombre de questions qui sont essentielles à mes yeux, notamment la question des interfaces avec d'autres disciplines. Alors, je comprends tout à fait votre crainte de voir la destruction d'une discipline sous prétexte d'exploration des interfaces. En même temps, les interfaces, elles sont souvent la clé des questions posées par le monde réel tel qu'il est. Donc, comment faire ? Alors, j'ai cru comprendre que vous envisagiez une des réponses sous forme de coopération entre les disciplines. Une coopération qui n'est pas toujours facile parce qu'elle supposerait un travail de compréhension réciproque. Pas simplement de juxtaposition, mais pour coopérer, il faut un peu plus. Et alors, ça m'amène à vous poser deux questions plus précises. D'une part, comment voyez-vous la relation, c'est une question qui a été évoquée par Gilbert Guillaume, entre histoire ou science historique, je n'entre pas dans la discussion sur ce point, et droit ou sciences juridiques. Comment voyez-vous cette relation et quelle est votre opinion sur l'usage de l'enseignement d'une histoire du droit qui serait spécifique, qui serait faite par des juristes avec une agrégation spéciale d'histoire du droit? Quel est votre sentiment là-dessus? Et puis alors, j'ai cru comprendre qu'à un moment de votre exposé, vous faisiez une différence entre l'histoire mondiale et l'histoire de la mondialisation. Est-ce que vous pourriez en dire un peu plus sur ce point qui me paraît aussi une des clés à l'heure actuelle? Merci.
Merci, madame. Monsieur Ménard.
Merci, monsieur le Président. Je voudrais surtout vous dire mon admiration pour le texte que nous avons entendu, et qui, dans la profondeur et la pertinence, saute aux yeux. Si j'osais, je poserais une question qui serait peut-être d'ordre anecdotique. En ce sens que, plus que de poser la question du rapport de l'histoire avec les autres disciplines, je poserais la question du rapport de l'histoire avec elle-même. En d'autres termes, c'est d'ailleurs un sujet que vous n'avez pas méconnu dans votre exposé, l'histoire d'hier avec celle d'aujourd'hui, ou l'histoire d'aujourd'hui par rapport à celle d'hier. Alors, j'ai l'impression que dans une large mesure, et c'est là qu'on peut parler d'anecdotes, ce que fait l'histoire d'aujourd'hui, c'est ce que n'a pas fait l'histoire d'hier. Et beaucoup de questions abordées aujourd'hui sont tout simplement des questions qui avaient été négligées jusque-là, soit parce que la documentation a été peu abordable, soit parce que ça ne correspondait pas au goût du temps. Par exemple, l'étude des classes... des basses classes, si l'on veut, des classes populaires, vous voyez, est survenue, s'est développée à partir du moment où l'on avait exploité tout ce qu'on pouvait dire, ou la plus grande partie de ce qui pouvait être dit sur les chefs d'État et sur les grands acteurs de l'histoire. Je vois la même chose dans l'histoire littéraire que je pratique plus. Maintenant, on étudie les auteurs secondaires, et même les auteurs microscopiques, dirons-nous. Alors qu'autrefois, on étudiait que les grands auteurs, et on s'apercevait qu'on pouvait toujours dire quelque chose de nouveau sur les grands auteurs. Ce qui n'est pas vrai sur les petits auteurs, malheureusement. Eh bien, c'est encore un vide qui s'est créé simplement par le développement de l'histoire antérieure et qui appelle une autre histoire. Mais à partir du moment où l'on étudie les phénomènes sociaux, si vous voulez, c'est l'élément social intervient beaucoup plus largement dans l'histoire des populations que dans l'histoire des grands hommes. Et à ce moment-là, c'est la sociologie qui va l'emporter sur l'histoire. Alors, je crois que dans cette obsession de l'histoire déjà constituée a donc la conséquence de commander d'une certaine façon l'histoire des nouveaux sujets, la délimitation des nouveaux sujets, et détermine aussi l'interprétation des sujets anciennement connus. Une des tendances les mieux représentées dans l'histoire, comme dans beaucoup d'autres disciplines, c'est tout simplement le besoin de réagir, de dire le contraire de ce que les autres ont dit. Et c'est ce qui se passe très souvent. Il n'est pas question de négliger ou de sous-estimer l'importance de l'apport. Et justement, c'est parce qu'il y a eu un apport considérable des historiens d'hier et qu'il y a un autre apport des historiens d'aujourd'hui. C'est un fait. Mais il n'empêche que le premier domaine commande le second. Ce ne sont pas seulement les faits qui changent, mais ce sont aussi les interprétations données et qui se modifient en fonction de plusieurs conditions, notamment de la mentalité collective. La mentalité collective qui change, et cette mentalité collective... Mais ce qui est là, l'une des conséquences, je m'en tiendrai là parce que j'ai déjà beaucoup parlé, l'une des conséquences de cette intervention de la mentalité collective, c'est qu'on voit intervenir dans l'histoire une prolifération extraordinaire de l'anachronisme. C'est-à-dire qu'on est tellement habitué... On part à partir de ce qu'on connaît dans le monde présent et partout. On l'applique au passé. Et en appliquant au passé ce que l'on voit dans le présent, on fausse le sens du passé, on fausse par conséquent l'enseignement que l'on pourrait tirer du passé. Merci.
Merci, monsieur Besançon.
Merci, monsieur le président. J'ai admiré, comme tout le monde, l'excellence de l'exposé de Jean-Jaurès Soutou.
Merci.
Ce qu'il a exposé, c'est moins l'histoire que le savoir historique. Et le savoir historique, depuis qu'il y a de la science, court après la science pour reconstituer ce qui s'est réellement passé. Alors il y a eu des tas de livres pour ça. Il y a eu disons, Seigneur Boss qui donnait une histoire scientifique dans l'esprit du positivisme. L'énorme influence de Marx ou du soft marxisme sur l'école des annales, c'était une façon de courir après l'histoire plus scientifique. C'est évidemment, bon, ça n'a pas été réussi. Ceux qui s'y ont mis ont vite abandonné. L'histoire quantitative également, ça a été un court moment. L'histoire structuraliste, etc. Puis alors maintenant, on lutte alors là contre une histoire qui ne cherche plus la vérité, mais qui cherche, qui est une histoire militante, qui cherche à imposer des visions historiques. Et le devoir de l'historien est évidemment de lutter contre la falsification historique. Cette idée du savoir historique et de sa rapport avec la vérité ont entraîné une dérive vers le savoir collectif, vers le travail collectif, vers les livres dirigés, vers les recueils d'actifs qui tous font entrer le savoir historique un peu plus précisément, l'espère-t-on, vers la vérité historique. Mais il y a une autre catégorie d'histoire. C'est le livre d'histoire et l'histoire considérée comme productrice de livres. Les auteurs, grands auteurs, les grands historiens font des livres. Et dans ces livres, ils emploient une rhétorique, une poétique, et ils aboutissent à une philosophie qui n'a pas grand-chose à voir avec la méthode historique et avec la recherche technique de la vérité. Regardez, l'histoire antique nous apparaît comme une succession de livres qui sont en même temps d'une perfection littéraire extraordinaire. Pensons à Thucydide, pensons à la guerre de Jugurtha. Nous lisons des grands livres comme Gibbon. Ben, Gibbon, c'est assez simple, c'est les idées de, comme a montré Momigliano, c'est les idées de Voltaire, sans plus, avec l'érudition des pères mauristes. Hein, et ça aboutit à un livre d'histoire que nous continuons de lire. Et ces livres d'histoire n'ont pas besoin d'être tout à fait vrais. Il suffit qu'ils soient grands et qu'ils aient justement cette unité que procure l'art de l'historien. Je pense à Pirenne, je pense à Weber, qui ont fait des livres d'histoire qui ont été 100 fois réfutés, mais qui sont toujours interrogés, parce qu'ils ont une beauté historique et que le beau n'est jamais loin du vrai, d'une certaine façon. Nous avons quand même des livres d'histoire classiques en France au XXe siècle. Nous avons tous lu Marbloch. Ben, Marbloch, qu'est-ce qui reste à Marbloch ? C'est ces livres magnifiques qui ont une valeur esthétique en soi. Brodel, au fond, il a essayé de faire ça, tout en croyant qu'il faisait de la méthode historique, il a fait un beau livre. Marou, ça c'est un livre très très sérieux qui est à la fois beau et complètement à l'abri de la critique. Mais enfin voilà, je pense que le livre d'histoire est une catégorie très importante qui échappe à la méthode et qui, par sa cohérence, nous convainc que verum index sui. Tocqueville n'a pas lu grand-chose, mais il a fait un livre dans lequel le verum index sui, le vrai, est manifestement évident par la façon dont il l'a exposé, dont il l'a organisé. Merci.
Que nous avons de belles mini-conférences. Merci.
Merci, Monsieur le Président. Une question courte. N'avez-vous pas l'impression que le remplacement de l'histoire par la mémoire, vous avez parlé de mémoire de l'histoire, la tentative de remplacement de l'histoire par la mémoire permet de mettre le passé sous la férule de la pensée dominante, au fond, ce qu'on appelle les lois mémorielles, c'est ça. Après tout, qu'a fait Hérodote ? Il a remplacé la mémoire par l'histoire. Il suffit de lire les premiers livres de l'enquête pour voir qu'il a arraché la mémoire... Il a remplacé la mémoire par l'histoire, pour arracher le passé des mains des gouvernants. Parce qu'au fond, la vérité libère de l'arbitraire. Est-ce qu'on n'est pas en train de connaître le processus exactement inverse ?
Merci. Monsieur le Roi Ladurie.
Oui, le schéma anglais qui a été évoqué... La révolution agricole avant la révolution industrielle. Je crois qu'il vaut aussi pour la France. En France, au XVIIIe siècle, on a la fin des famines. À partir de... Après 1709, on a des crises de subsistance. Et puis, on a l'industrialisation qui me paraît, à cause du retard dû à la révolution, plutôt à partir de la restauration, ou en tout cas fin XVIIIe. Donc, la chronologie agriculture puis industrie, voilà pour l'Angleterre, vaut aussi pour la France. En ce qui concerne les annales, elles sont de plus en plus culturalistes. Or, le fondement des annales était matérialiste, c'est-à-dire l'histoire des prix, l'histoire des subsistances, etc. Je ne me dresse pas contre cette évolution, Mais enfin, en tout cas, je voulais la caractériser. Alors, en ce qui concerne le climat, non, histoire mondiale du climat, bon, on peut le faire sur la revue, mais enfin, c'est... Non, l'histoire du climat que j'ai beaucoup pratiquée, c'est une histoire, disons, par exemple, un groupe qui serait l'Allemagne, la France, l'histoire comparée, puisque j'ai fait histoire humaine et comparée, la France, l'Angleterre, l'Allemagne, les pays, voilà. Donc, je pense que ce sont des ensembles comme cela. Demain, peut-être la Chine. Alors, M. Jouzel, l'éminent climatologue, fils d'un paysan breton, du reste, ce dont il se cache nullement, au contraire, M. Jouzel nous prédit, je n'ose à peine les dire, des hausses de température qui pourraient aller à plus de 10 degrés dans le bout d'un siècle. Je n'ai pas relu son livre. Enfin, en tout cas, le plus 2 à 4 degrés pour la fin du siècle est paraît quand même très sérieux. Est-ce que l'Académie ne devrait pas s'occuper de ces problèmes ?
Merci. Monsieur Casanova.
Merci, Monsieur le Président. L'exposé de notre confrère est si riche qu'on ne peut pas en discuter les détails, et ni l'ampleur d'ailleurs. Mais je voudrais... Il a éveillé en moi une réaction sur le problème de la cartographie universitaire. Il a dit que l'histoire économique était faible en France, et c'est incontestable. Il y a eu d'immenses travaux. La thèse de notre confrère Emmanuel Leroy-Ladurie est un modèle parfait d'analyse du cycle malthusien. Mais quand j'étais étudiant aux États-Unis, Gershon Krohn, qui était un grand historien de l'économie, se moquait d'un grand historien français dont je ne dirai pas le nom, et disait « toute sa relation sur le prix du blé et la Révolution française repose sur un contresens statistique, il ne sait pas faire un calcul de corrélation ». Et j'ai connu un autre grand historien des facultés des lettres qui écrit une histoire d'un groupe bancaire français, mais qui démontre dans son histoire qu'il ne sait pas lire les comptes d'une entreprise, ce qui est délicat quand même quand on étudie une entreprise. Et s'il y a une insuffisance de l'histoire économique en France, ça vient essentiellement... Quand on a dû chercher des enseignants à Sciences Po, on a trouvé que Crouzet, Leroy-Ladurie et Lévy-Leboyer, qui pouvaient faire un cours acceptable par des économistes et par des historiens. Pourquoi la profession est-elle si faible là-dessus ? Je crois que c'est un défaut d'organisation universitaire. C'est-à-dire que nous vivons dans un pays centralisé dans lequel le centre est aveugle et muet. Ce qui est extrêmement difficile, si vous voulez, le système universitaire américain ou le système universitaire anglais est patronné, dirigé, organisé d'une certaine façon par l'Académie anglaise, qui est un organisme puissant, qui dispose de pouvoirs puissants, si vous voulez, et qui oriente l'évolution des disciplines, qui dit la biologie est faible dans tel et tel domaine, il faut créer davantage de chaire dans tel et tel domaine. Cet organisme n'existe pas vraiment en France. Les organismes universitaires se sont politisés et syndicalisés, les ministres sont devenus totalement incompétents en ces matières, comparés aux ministres de la Troisième République, les commissions parlementaires, il y a encore des commissions parlementaires avant la guerre de 14, qui disait il faut une chaire de grec à l'école des hautes études, ou il faut ceci. C'est impensable aujourd'hui d'avoir une commission parlementaire qui parle d'une discipline scientifique quelconque. Je suis allé une seule fois à la commission de l'éducation à l'Assemblée nationale. C'est d'une médiocrité hallucinante, si vous voulez, pour discuter du moindre problème universitaire. Autrement dit, la France, pays centralisé, n'a pas d'organisme qui dit voilà, nous avons une grande histoire médiévale, nous avons une grande histoire antique, nous avons une grande histoire politique, très bien, mais voilà les domaines, par exemple, cher ami, vous m'avez dit que vous aviez la chaire de relations internationales à Paris 4, chaire occupée autrefois par Renouvin, Durosel, etc. Vous n'avez pas eu de successeur dans votre discipline à Paris 4. Autrement dit, la principale université parisienne a renoncé à une discipline, les relations internationales, qui a une assez grande importance, qui a d'autant plus d'importance que la France devient un pays de taille moyenne. Quand on est un pays de taille moyenne, il est d'autant plus important de comprendre l'ensemble du monde. On ne le dirige plus, mais au moins il faut essayer de le comprendre. Et il n'y a aucun organisme d'État qui dise, ben voilà, il faut créer des chaires dans tel et tel domaine. La France est faible en histoire militaire, par exemple, comparée à l'Angleterre. il n'y a aucun... Le ministère de la Défense dépense de l'argent pour promener des universitaires, mais il n'y a aucun organisme réel qui dise, voilà les chaires qu'il faut créer ou les emplois qu'il faut créer. Alors, j'ai déjà trop parlé, mais je voudrais faire une suggestion à nos collègues de la section d'histoire. C'est en accord avec l'Académie des inscriptions et belles lettres, où il y a beaucoup d'historiens, et une partie de l'Académie française, où il y a également des historiens, de lancer une grande enquête sur le niveau des disciplines historiques en France et de voir là où nous sommes forts et là où nous sommes faibles, de façon à inciter les universités et à inciter éventuellement les gouvernements à financer le développement de chaires dans les domaines où nous avons besoin d'historiens. Quand autrefois, si vous voulez, les historiens ont joué un certain rôle dans les problèmes politiques, par exemple les frontières après 1914, les historiens, les géographes. Aujourd'hui, je suis sûr qu'il faudra peut-être développer en France les historiens du Moyen-Orient, les historiens de l'Asie, les historiens de l'Afrique, etc. Mais encore faudrait-il que le centre dispose d'une carte de nos forces et de nos faiblesses, ce qui n'est pas le cas actuellement.
Monsieur Pébreau.
Oui, merci, Monsieur le Président. J'ai été très impressionné par l'ampleur et l'intérêt de l'exposé de notre confrère. J'avais seulement trois observations, questions. La première observation est relative à l'enseignement de l'histoire. J'ai été, je suis frappé naturellement comme nous tous par les évolutions qui sont intervenues dans l'enseignement secondaire et même dans l'enseignement primaire, à vrai dire. Mais mon observation porte sur Sciences Po. À Sciences Po, nous avons, dans une période assez récente, considéré que l'histoire était en effet une discipline essentielle pour, en quelque sorte, sélectionner les étudiants à l'entrée de Sciences Po. Et donc, considérant cela, on a pensé qu'il était préférable de faire disparaître une épreuve qui s'appelait épreuve de culture générale, de façon à mettre l'accent sur la formation historique des étudiants par rapport à celle qui aujourd'hui sélectionne les étudiants dans l'enseignement secondaire, c'est-à-dire les mathématiques. Cette réforme a été très mal prise par le monde universitaire, et je voulais vous demander ce que vous pensiez de cette question. Est-ce que cette initiative était heureuse ou malheureuse ? Ma deuxième observation, là je vais être très très bref parce que c'est un sujet que je connais mal, mais je voulais simplement un tout petit peu appuyer les observations de Jean-Claude Casanova sur les questions d'histoire économique. Ce qui me frappe dans l'histoire économique, c'est qu'il existe naturellement des travaux très scientifiques sous forme de monographies qui sont plus ou moins accessibles selon les cas au grand public. Pour le grand public, il existe une histoire de la pensée économique qui était enseignée dans le temps dans les facultés. Je ne sais si elle l'est toujours. Il existe une histoire des politiques économiques qui était plus ou moins enseignée à Sciences Po à certaines périodes. Mais l'histoire de l'économie, l'histoire économique, c'est-à-dire l'histoire de la production, ne me semble aborder en règle générale que sous un aspect un peu idéologique. C'est-à-dire que le rôle de l'entreprise dans la production ne fait pas l'objet d'une étude autre qu'une étude monographique. Et je voulais vous demander si vous pensez que c'est quelle est l'origine de cette situation. Et puis ma troisième question, qui elle, est vraiment la plus importante, la seule importante, pardon, est relative aux comparaisons internationales dans cette évolution de l'histoire. Est-ce que au Royaume-Uni, en Espagne, on a connu une évolution de l'enseignement secondaire comparable à la nôtre? C'est-à-dire, est-on dans une situation dans laquelle on partait de la vis pour arriver à une absence de chronologie et une absence d'ailleurs de référence même nationale dans certains cas? Et deuxième partie de ma question internationale, on parle aujourd'hui de l'élaboration de manuels franco-allemands pour l'histoire de l'Europe et pour l'enseignement dans nos écoles. Alors, je me demandais comment ces manuels se situaient par rapport à la destruction de la chronologie. Voilà, c'était mes questions plus importantes. Merci, Monsieur le Président.
Merci. Et enfin, Monsieur Le Villain.
Oui, cher Jean-Henri, comme on dit, mon bonheur passe mon espérance. J'attendais effectivement quelque chose de grand, c'est très grand. Et d'ailleurs, vous m'avez appris des choses que je ne sais pas. Ce qui arrive encore, heureusement, à mon âge. J'ai seulement trois. Alors, pour ce qui est de faire une histoire pour une histoire religieuse, c'est non, parce que de toute façon, pour répondre à ce que dit Jean-Claude Casanova, on n'enseigne plus l'histoire religieuse, à part à Paris 1, je crois, dans les universités françaises. C'est une discipline qui est morte. Donc on peut effectivement la relancer en décidant de faire un très grand livre, genre Ballon, qui soulèverait au-dessus des mers et qui expliquerait ce que c'est que faire l'histoire religieuse. Mais c'est une entreprise, littéralement, d'un groupe d'au moins 100 personnes. L'histoire religieuse est d'ailleurs passée par toutes les étapes que vous dépeintes, à savoir qu'elle a été universelle au début, puis elle est devenue ensuite bibliographique au XIXe siècle, puis elle s'est sociologisée, puis elle est redevenue ensuite descriptive, et puis maintenant, elle n'est plus rien. Et je constate aussi que même dans l'Église une sainte apostolique et romaine, quand on discute de l'indissibilité du mariage, on oublie qu'il y a eu le Concile de Trente, il y a un canon, le canon 7, qui a distribué pendant des heures des papiers sur ce sujet. Bien, peu importe. J'ai trois questions petites à vous poser. La première, vous n'avez pas mentionné le concept d'histoire du présent. L'histoire immédiate, une collection d'ailleurs aux éditions du Seuil, qui était longtemps l'apanage de Jean Lacouture, et qui peut-être pose la question du rapport entre histoire et médias. Parce que les médias font de l'histoire constante. Je veux dire, je pense particulièrement à ce qui s'est passé au moment de l'exécution des Ceausescu. On a dit, ça y est, nous sommes d'abord en présence de ce qu'est l'exécution d'un couple de tyrans. Et d'autre part, l'histoire de la Roumanie a basculé à tel moment, tout à l'heure, etc. On l'a passé en boucle. Et on pourrait donner d'autres exemples, mais c'est quand même un exemple assez significatif de ce qu'on appelle l'histoire immédiate, qui est à la fois informative et désinformative. La deuxième question que je voulais vous poser sur la biographie, son succès, je me suis interrogé assez longuement là-dessus dans un article. Je me demande si un des succès de la biographie n'est pas le narcissisme du temps présent qui va de pair au développement de l'individualisme. Et dans la biographie, il y a toujours trois données, puisqu'on fait la même année des biographies de Richelieu 3, de Marx 4, etc. Bon, voilà. Il y a toujours trois éléments. Il y a le côté inquisitorial, en savoir un peu plus. Il y a le côté goût du sexe, qui maintenant fait partie du travail biographique. Je dis ça devant Denis Maraval, mais ça joue quand même. Et puis, il y a le côté narcissique total, qui fait que, en règle générale, une biographie, on commence, si je veux dire, par lire la mort. Une biographie vient de paraître sur Madame de Pompadour par Muchamblay, qui est justement de l'école des annales. La mort de Madame Pompadour n'est pas racontée. Par conséquent, elle n'aura aucun succès. Enfin, la dernière chose que je voulais vous demander, c'est une interrogation qui répond d'ailleurs à ce que Michel Perrault a soulevé. C'est dans quelle mesure l'histoire culturelle, qui quand même a été couvée à Sciences Po, n'a pas été englobante de toute l'histoire. Et c'était un problème, parce que l'histoire politique est une histoire culturelle, ça, indéniablement. Bon. Or, c'était, à ce moment-là, je dirais, une perte de boussole pour l'histoire politique. Le livre que vous avez cité, « Pour une histoire politique », dirigé par René Raymond, dans lequel j'ai fait l'article sur la biographie, est une réaction au tout culturel. Puisqu'on ne savait plus très très bien si Herriot c'était une culture ou c'était le président du Parti radical, et ensuite président émérite. Voilà. Donc ce sont les trois questions que vous ne pourrez pas répondre parce qu'il est déjà 14h30.
Oui. Et enfin, la der des der, monsieur David.
Merci, monsieur le président. Je vais être très bref. D'abord, merci à Georges-Henri Soutou pour ce magnifique exposé. Ma question est la suivante. En effet, l'histoire a tendance à disparaître, et à disparaître pas seulement des manuels en histoire, mais à travers toute l'Europe. Et au moment où l'Union européenne se trouve en panne de projets et même remise en cause, est-ce que ce ne serait pas une bonne idée de rapprocher les manuels d'histoire à travers toute l'Europe, non pas en ayant l'ambition excessive et irréaliste d'avoir un seul manuel, parce que chacun écrit son histoire à sa façon, mais au moins d'avoir deux ou trois chapitres dans tous les manuels des pays de l'Union européenne qui rappelleraient ce qui nous unit, les valeurs communes, l'héritage commun. Merci, monsieur le président.
Merci. J'ai fait votre éloge. Je voulais vous interroger, mais la chronologie, la chronométrie, l'histoire est tout à fait contraignante. Il y a eu 12 interventions. Vous avez 24 minutes pour donner à nouveau un nécessaire exemple de concision. Nous vous écoutons.
Mais enfin, je me trompe peut-être. Bon, j'essaierai de synthétiser un tout petit peu. Premier point, et je me tourne vers le président Ménard, il y a beaucoup de faire-valoir et de faux-semblants dans cette histoire qui est aussi une histoire universitaire. C'est certes largement une discipline universitaire que j'ai décrite, ça c'est bon. Et en ce sens que l'on tend à disqualifier ou oublier les prédécesseurs. À propos de l'histoire sociale, de l'histoire des classes populaire, de la paysannerie, des classes ouvrières, des classes dangereuses, comme on disait au XIXe siècle. Je m'amuse parfois à aller chercher dans ma bibliothèque l'un des nombreux volumes de l'immense histoire de France de Lavis. Il est une ouvrage collective, bien entendu. Lavis a écrit certains volumes, mais pas tous. Et dans chacun des volumes, par période, vous avez des chapitres entiers sur ces sujets. Simplement, ils sont mis à leur place, donc il n'est pas celle qu'on leur accorderait aujourd'hui, mais c'est absolument pas négligé. Certains de ces chapitres sont très supérieurs, au moins par les questions qu'ils posent et les impressions qu'ils donnent, à ce qu'on peut lire aujourd'hui, tristement. Et certains rejoignent quand même la qualité littéraire qu'évoque Alain Besançon. Bon. Donc, il y a une part de manipulation, bon, de la profession. Alors, en ce qui concerne l'enseignement secondaire, bien évidemment, on a abandonné la chronologie, pas seulement en France, d'ailleurs je réponds au passage à d'autres questions. En Angleterre, je n'ai pas les manuels anglais sous les yeux, mais si j'en crois les hurlements du Spectator, que je lis fidèlement chaque semaine, puisqu'il n'y a pas plus à droite en Grande-Bretagne. Bon, c'est la même situation. L'Allemagne, c'est très intéressant, ce sont les Länder qui dessinent. Alors, en Bavière, vous avez encore un curriculum très traditionnel, enfin, classique, disons. Bon, dans d'autres Länder, l'histoire a disparu au profit des Sozialkunden, enfin, des sciences sociales, n'est-ce pas, y compris dans le secondaire. Le vrai problème, finalement, parce qu'il se posait déjà avant les changements de programme actuels, c'est que l'enseignement secondaire en France ne prend pas sa place, je parle de l'histoire, mais ça vaut pour nos disciplines, ne prend pas sa place dans les ordres d'enseignement successifs et normaux. Primaire, on apprend à lire, écrire, compter. Secondaire, on apprend les bases nécessaires pour l'homme qui ensuite fera sa culture. Puis l'université, on se développe. L'enseignement secondaire, de plus en plus, singe l'enseignement supérieur. La seule chose, c'est qu'ils prétendent, aux collègues, prétendent trancher en deux phrases et des chapitres d'une demi-page des choses que même les plus imaginatifs d'entre nous à l'université n'abordons qu'avec prudence, respect et point d'interrogation. C'est ça qui je pense, est à la racine du mal que vous avez été deux ou trois à souligner. Il est évident que il n'est pas possible de former, comme on le faisait sous la Troisième République, il n'y a même pas des patriotes et des républicains, je dirais tout simplement des citoyens, à partir de ce cursus complètement éclaté, où les enfants ne peuvent plus se repérer, et qui répond à des modes, et puis aussi à des difficultés d'enseignement. Si vous voulez enseigner les croisades de façon classique maintenant dans la plupart des établissements secondaires, vous ne terminerez pas la séance, je vous le dis tout de suite, sans incident. Bon, alors on cherche des solutions dans l'évocation en deux phrases, deux pages, je veux dire, de l'islam, ceci, cela. Mais il est évident que c'est une forme de bricolage intellectuel. En ce qui concerne d'ailleurs la question qu'avait posée Monsieur Dorcival, qui va tout à fait dans le même sens, c'est tout à fait exact qu'il y a une demande de loi très bien en ce moment. J'ai participé à un colloque sur les origines de la guerre de 14 à Nancy. Au mois de janvier, il y avait 300 personnes. La grande salle de la mairie sur la place Stanislas, il n'y avait plus de place assise, les gens étaient debout. Bon, ça durait toute la journée. En Savoie, où j'ai également participé à certaines conférences, je pourrais dire la même chose. Et c'est une appétence, je le dis bien, pas simplement pour l'histoire locale, au sens du localisme. C'est une appétence pour la véritable histoire. Évidemment réfractés à travers nos provinces qui ont chacune joué leur rôle. Non, il y a une réelle appétence. On le voit également dans les émissions de télévision, me semble-t-il, quand on regarde des taux d'écoute. Il y a une appétence et je regrette beaucoup que l'université et l'enseignement sont modernes dans un premier temps, ne me paraissent pas actuellement bien engagés. Et on peut mesurer ce que vous avez dit par la réduction des horaires de l'enseignement de l'histoire dans l'enseignement secondaire et par la réduction de la place de l'histoire au baccalauréat. On pourrait mesurer très exactement ce que vous avez dit. En ce qui concerne Sciences Po, bon, moi j'étais, je dois dire, ayant moi-même participé pendant 4 ans à différents niveaux aux enseignements d'histoire de Sciences Po, je ne peux être que très élogieux de ce que cette maison avait voulu mettre sur pied, de même que je suis très frappé par la qualité de certains dossiers qui nous arrivent de jeunes chercheurs, quand maintenant on prépare l'agrégation d'histoire aussi à Sciences Po, ils ont développé cela, et donc la maison incontestablement a réorienté son cursus par rapport à ce qui était le cas quand j'étais moi-même étudiant. Je ne peux vous donner qu'un avis très très positif, d'autant plus que la présence de très nombreux étudiants étrangers à Sciences Po, 40% voire plus sur l'enseignement, rend peut-être encore plus nécessaire un recadrage thématico-chronologique, historique, pour que y ait des bases partagées. Il est, d'autre part, en ce qui concerne la question qu'a posée Monsieur Pébro sur le manuel franco-allemand, il existe, il est bon. Et simplement, il n'est pas utilisé dans l'enseignement secondaire, parce que les programmes sont différents. Il sert, dans le meilleur des cas, à des professeurs du second degré qui, malgré les difficultés, continuent à se cultiver et à réfléchir, qui essaient de faire passer un certain nombre de choses. Il sert, parce qu'il a été bien vendu, 40 000 exemplaires en France, sauf erreur. Et il sert à cela. Ce qui rejoint d'ailleurs la question que posait Monsieur Levitt sur les manuels européens. Alors, il y a des efforts qui se font dans des pays qui ont conservé un enseignement classique de l'histoire. Certains Länder en Allemagne, la Russie, avec évidemment, bon peut-être, mais c'est un enseignement de type classique, la Pologne, dont nous devrions étudier très attentivement l'évolution. Les Polonais résistent les quatre fers et très consciemment aux dérives qu'ils constatent chez nous. Et en même temps, ils ont été, même à l'époque du communisme, au premier plan de toutes les innovations historiques qui venaient chez nous. Guéremec a été historien chez nous. Enfin bon, je ne veux pas développer cela. Le cas polonais est extrêmement intéressant. Il y a des commissions polono-russes, polono-allemandes. Ça marche sur le plan bilatéral. Alors, est-ce qu'on pourrait arriver à des chapitres du niveau supérieur qui pourraient être repris? C'est une très vaste question. Je crains un peu que ça ressemble au chameau dessiné par un comité. Vous savez, enfin bon, c'est un peu ma crainte. Enfin, effectivement, il y a eu une époque où à Bruxelles, on avait un interlocuteur pour ce genre de questions. Maintenant, on a une énorme direction. On est passé d'une personne, qui est une dame d'ailleurs, à une énorme direction. Je suis pas très optimiste, mais l'idée en elle-même est évidemment utile. Alors, toujours dans le domaine de l'histoire culturelle, l'histoire politique, oui, effectivement, l'histoire culturelle a sa période d'impérialisme, mais enfin, je pense qu'il est peut-être moins dangereux que d'autres. Du moins, les apports sont peut-être plus utile, me pose personnellement moins de problèmes. La biographie, attention, je parlais des biographies scientifiques données comme sujet de thèse, ou acceptées comme sujet de thèse. Sans ça, il est évident que s'il n'y a pas du sexe, ça ne marche pas, mais on peut quand même soutenir une thèse sans des chapitres entiers dégoulinants de sexualité, n'est-ce pas, encore aujourd'hui, mais simplement on donne guère des sujets de ce genre. On commence à le faire, mais c'est rare. Je ne peux pas tout traiter, je vais à ce que j'ai retenu essentiellement, pour Madame Delmas Marty. Je fais une différence très nette entre l'histoire mondiale dans le sens de global history, qui repose sur l'idée qu'il y a une histoire mondiale. Allez, prenez les manuels américains, ils sont très caractéristiques, vous voyez des cartes mondiales, des planisphères, où l'Europe figure pour fin, et puis l'Égypte, Black Egypt, hein, l'Égypte noire, bien entendu, figure, bon, prend les trois quarts de la page, l'Asie, le reste, les États-Unis disparaissent à peu près totalement. C'est un programme politique, bien entendu. Aux États-Unis, je ne dirais pas partout. L'histoire de la mondialisation, c'est à mes yeux très différent. C'est un sujet parfaitement légitime pour l'histoire économique, pour l'histoire politique, pour l'histoire culturelle, bien entendu pour l'histoire des relations internationales. Nous avons là-dessus des colloques, des ouvrages parfaitement scientifiques, avec une chronologie qui part, disons, des grandes découvertes, parfois éventuellement de l'Empire romain, après tout, pourquoi pas. Bon, on peut là-dessus discuter, c'est tout à fait légitime. Oui, alors nous souhaitons, nous souhaitons avoir quand même de temps en temps quelques petites archives écrites pour appuyer nos raisonnements. Mais enfin, évidemment, vous avez tout à fait raison. Mais en tout cas, vous comprenez que l'histoire de la mondialisation, ce n'est pas la même chose que l'histoire global history, au sens de l'histoire mondiale, en tout cas dans mon esprit. Alors, en ce qui concerne l'histoire et le droit, j'ai toujours plaidé, dès mon arrivée à Paris 4 comme assistant en 1972, où il y avait à cette époque le projet d'une licence commune droit-histoire entre Paris 2 et Paris 4, pour développer cette formation. Certains de mes élèves savent que j'aurais toujours dit, si vous avez la possibilité de faire un peu de droit, faites-en, c'est essentiel pour l'histoire. C'est probablement la discipline, au sens fort du terme, n'est-ce pas, la plus directement utile pour l'historien, parce que c'est un extraordinaire moyen de comprendre le fonctionnement des sociétés. Bon, je ne vais pas vous faire un cours là-dessus, mais je suis mille fois d'accord avec vous. J'ai regret de dire que cette licence droit-histoire qui avait été effectivement créée a été dénoncée 2 ans plus tard par Paris 2, n'est-ce pas, qui considérait que nous n'étions pas tout à fait, nous, à la Sorbonne, à la hauteur. Alors, oui, mais là, je n'étais plus aux affaires. Mais je l'ai su, j'ai des amis qui s'en sont occupés, donc bon, voilà. Donc, je suis tout à fait partisan de ce que vous dites, pas simplement pour des questions d'organisation des stratégies universitaires, mais pour des questions fondamentales. Comment comprendre Rome, l'histoire romaine et tout ce qu'elle comporte, sans le droit romain, pour une situation. Je vous signale que quand la chaire d'histoire du droit romain a été supprimée au Institut Polytechnique Fédéral de Zurich, qui est une des mecs en Europe, il y a eu un article d'une page entière dans la Neue Zürcher Zeitung pour pousser des hurlements, mais qui, ça n'a pas empêché la disparition de cette chaire, qui n'a pas été une bonne nouvelle. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On en revient à ce que disait Jean-Claude Casanova. Il n'y a pas un organisme qui gère tout ça. Il y a une exception, vous l'avez fort bien cité, c'est la Grande-Bretagne. Et je pourrais citer, pour aller dans votre sens, j'ai mis d'autres exemples. Il se trouve que, bon, je fais de l'histoire comme historien, j'essaie d'écrire des livres, je ne prétends pas être au niveau de Gibbons, ça je dis tout de suite, mais enfin, j'organise également des colloques, mais à côté de ça, j'ai des activités peut-être moins publiques, mais extrêmement concrètes. Quand l'école de guerre m'a demandé quelques conseils d'ordre scientifique, j'étais exposé à des questions extrêmement concrètes. Quelle est la place de l'histoire? Quelle doit être la place de l'histoire militaire? Bon, dans la formation opérationnelle des officiers de l'école de guerre, sachant qu'ils ont 4 mois de cours théoriques tout au plus. Bon, alors, elle est essentielle. Et on leur enseigne la stratégie théorique, c'est fondamental. On leur enseigne l'histoire militaire, parce que c'est l'expérience qui vient compenser un peu ce qu'a d'abstrait la stratégie théorique. Mais ce sont des questions extrêmement concrètes. Alors, quand la direction de l'école de guerre m'a demandé, mais à qui on s'adresse? Je dis, ben écoutez, moi, je vous conseille de recruter les gens que vous voulez engager en voyant chaque fois à qui vous avez affaire. À Londres, c'est très différent. Le Staff College, britannique, l'équivalent, un contrat, un accord avec King's College. Il y a un département de War Studies. Ils sont plus de 50. Plus de 50. Bon, nous, on n'a pas l'équivalent. Et je rejoins ce que vous disiez. Département, King's College, War Studies, assure tout l'enseignement nécessaire dans le domaine théorique, historique, etc., au Staff College, en bloc, directeur en tête. Ça comporte 2 choses, c'est que, bien entendu, il ne parle pas de la misère sexuelle du soldat, qui est l'un des sujets favoris des historiens militaires français actuellement. Quand j'ai dit ça à l'école de guerre, on m'a dit, écoutez, nous, ça, c'est pas le sujet qui nous préoccupe en premier, franchement, bon. Et d'autre part, autre aspect auquel certains d'entre vous ont fait délicatement allusion, il n'y a aucun problème. Vous me comprenez, une école de guerre, c'est pas un établissement comme ça. Il faut quand même un minimum de tranquillité, de sécurité. Il n'y a aucun problème. Nous n'avons pas l'équivalent. C'est une façon encore plus précise de rejoindre votre idée. Que faire? Alors, effectivement, nos académies, ça a été suggéré, pourraient commencer à susciter une réflexion sur l'état de l'enseignement historique. Je dis nos académies en incluant les autres. ce serait un rapport qui, un jour, j'espère, servirait à quelque chose, n'est-ce pas ? Bon. Mais nous avons beaucoup de problèmes, dont certains ont été soulignés par Chantal Delsol. La manipulation, c'est ça, les lois mémorielles, c'est d'une part le risque d'interdiction de la recherche. Un de nos collègues, comme vous le savez, a failli avoir un procès. Finalement, ça s'est réglé au dernier moment. Mais enfin, bon, pour un travail de thèse, en tout cas un travail tout à fait scientifique, c'est une pression qui commence à s'exercer. On risque, si on ne fait pas attention, d'être amené à s'auto-censurer. C'est pour ça que je n'aime pas du tout le mémoriel. Ça, bon, en plus, ce n'est pas mon caractère. Enfin, franchement, ce n'est pas mon... Bon, c'est pas que je ne connaisse pas la Seconde Guerre mondiale, je la connais mieux, pour des raisons familiales, que la plupart des jeunes collègues qui s'en occupent. Je dis ça au passage, pour qu'il n'y ait pas de malentendu. Mais simplement, je trouve que ce n'est pas une façon d'aborder scientifiquement les choses. Et c'est évidemment dommage, parce que l'histoire faite sérieusement, l'histoire comparée qu'a évoquée Emmanuel Leroy-Ladurie, apporte des éléments extrêmement intéressants. J'aurais pu développer d'ailleurs ce point, mais l'histoire comparée franco-britannique ou l'histoire comparée franco-allemande ou l'histoire comparée franco-italienne, par exemple, il y a des exemples très concrets, apportent des conclusions extrêmement intéressantes et très utiles pour en venir à ce que disait M. Levitt sur l'évolution européenne. On découvre des tas de choses qui sont tout à fait nouvelles, dérangeantes. Et alors, nous en arrivons aux graves questions, la plus théorique de Thierry de Montbrial. La philosophie du langage, certainement, nous avons à la Fondation Thiers des dossiers qui sont présentés pour des bourses de recherche sur ce genre de questions qui sont tout à fait intéressantes, qui dépassent un peu mon domaine. Mais effectivement, c'est une clé d'entrée tout à fait légitime, puisque beaucoup de situations historiques ou de malentendus historiques pouvant conduire à des tensions et à des crises s'expliquent au départ par des malentendus quasiment linguistiques. Tous les diplomates savent ça. Première chose à faire, c'est de s'entendre sur les termes, les faux amis, y compris même dans le vocabulaire plus juridique ou plus politique. C'est un travail que l'on fait instinctivement quand on est dans l'action. C'est un travail que l'historien est amené à faire. Si on travaille sur la relation internationale, par exemple, je mets en garde, il suffit pas de savoir un peu d'anglais, un peu d'allemand. Il faut savoir très bien l'anglais et très bien l'allemand pour pouvoir vraiment faire de l'histoire internationale comparée. Alors, en ce qui concerne la distinction entre les sciences de la nature mathématiques et les sciences sociales, je pense que terme qui... Bon, je ne discute pas cette nuance, parce que je sors même de mon domaine, mais ce qui est important pour nous, c'est ce que je disais au départ, des sciences rigoureuses, exactes, même les sciences physiques, étant donné que tous les 15 ans, on trouve un nouveau, nouvelle particule, une nouvelle loi, une nouvelle force. On ne sait pas si c'est un bing-bang ou une contraction. Enfin, les physiciens évoluent aussi, hein, donc ils sont rigoureux. Bien, nous aussi, nous devons l'être. Exact, Dieu seul. Et chaque confrère est exact. Je vous remercie, Monsieur le Président.